Tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre, écrivait Blaise Pascal au XVIIe siècle. Était-il un adepte du confinement avant l'heure ? Eh bien, c'est ce que nous cherchons à décrypter dans cette troisième émission consacrée aux philosophes.
Psy et Spi, Sophie Lecomte, avec le père Jean-François Noël.
Bonjour Père Jean-François.
Bonjour Sophie.
Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui pour entamer cette troisième émission sur Blaise Pascal. Aujourd'hui, place à l'intériorité. Pour Blaise Pascal, enfin, tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Oui, c'était la grande question du confinement.
Il était déjà un adepte du confinement avant l'heure.
Ah oui, oui, oui. Ah, oui. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, le confinement, c'est pour ça que c'est vraiment une actualité originale que de reprendre Pascal, parce que en fait tout le monde a vécu ce problème-là, c'est de rester tranquille dans sa chambre alors qu'on était tous confinés, qu'on n'avait qu'une envie pour le coup, c'était de sortir, alors que quand on en avait la possibilité, on le faisait pas. Bon, bref, et que donc il y a une tension dans l'homme qui fait que
ça a rendu, vous pensez, l'homme plus spirituel, le confinement là en 2021.
Quand on écoute des témoignages à la radio, beaucoup disent bien je me suis mis à lire, je me suis repris les œuvres complètes de Bidule Bach,
de Blaise Pascal,
j'ai écouté RCF toute la journée. Donc il y a des gens qui ont pris au sérieux le confinement pour revenir à eux-mêmes. D'autres se sont même interrogés sur leur vie professionnelle, les changements de... Il y a quand même pas mal de gens qui ont profité du confinement pour revenir à l'intérieur et entendre les questions qu'ils n'avaient plus le temps d'écouter.
Pour vous, il y a eu un avant, un après confinement.
Ah oui, je pense, oui. En tout cas, en Occident, ça a été vraiment le... Enfin, quand on entend des intellectuels, des écrivains, des musiciens, des artistes, d'autres se sont ennuyés. Hein, moi, parfois, je me suis aussi ennuyé. Mais non, j'ai lu, j'ai travaillé. J'ai écrit un livre, d'ailleurs, à ce moment-là. Et j'avais une disponibilité d'esprit pour le faire. Donc, voilà, revenir un peu aux questions essentielles qu'on balaye parce qu'il y a trois coups de téléphone à passer et qu'il faut aller voir sa mère ou sa grand-mère et il faut aller passer chez le garagiste et payer ses impôts, voilà. Et qu'en général, c'est ça que Pascal appelle le divertissement, c'est pas l'éclat dans la fête du rêve, c'est que on se fuit sans arrêt.
L'intériorité, qu'est-ce qu'elle représente pour l'homme moderne ?
Elle représente une question, comme je l'ai dit au début des premières émissions, une tension. Je suis fait pour un bonheur que je n'arrive pas à atteindre.
Et l'intériorité...
Vous me regardez.
Non, parce que je réfléchis à ce que vous
me regardez. Je suis fait pour un bonheur, pour un bien, pour un vrai que je n'arrive pas à atteindre. Et que je m'angoisse de ne pas l'atteindre. Ou alors, je fuis cette question.
Et je l'atteins en ayant plus d'intériorité.
Je l'atteins... alors ça, c'est là qu'est Pascal. C'est là que c'est un peu compliqué à penser, pour le coup. C'est que ce n'est pas du concept philosophique comme Kant ou comme Descartes. C'est vraiment du côté de « que dois-je faire ?» Parce que, par exemple, chez Pascal, ça a été un peu... C'est ça qui l'a écarté des jansénistes, c'est que c'est pas tant une sorte de disposition simplement mystique, d'oraison, repos, etc. C'est une charité à développer.
Avec Dieu ?
Avec Dieu et avec les autres.
Parce que quand on se pose, quand on cultive, quand on développe son intériorité, on arrive peut-être à être plus ancré dans le monde qui nous entoure.
Oui.
Sinon,
plus ancré, moins sourd aux appels des autres, plus disponible à ce qu'ils sont.
On prend plus de hauteur. Ce qu'on dit souvent, par exemple, quand dans des conversations, il faut dire prendre la hauteur.
Je ne crois pas que c'est de la hauteur. La distance.
La distance,
oui. On prend une juste distance, juste place.
Parce que quand on n'est pas dans cette intériorité, ce que dit Pascal, on est toujours dans la recherche du divertissement.
Oui, de l'évitement, de l'esquive. Et qu'il faut revenir à ce centre, découvrir que nous sommes divisés à l'intérieur. Parce qu'il va loin, hein, il dit que le moi est haïssable. En fait, ce n'est pas que je suis haïssable, c'est que ce qui en moi... s'oppose à ce questionnement, à cette interrogation profonde, est haïssable. Lui, il ne confond pas le moi et le soi. Voilà. Le moi est haïssable parce qu'il est divisé et qu'il peut nous tromper.
C'est quoi, c'est l'amour propre ?
Oui, le moi, c'est l'amour propre, exactement. C'est ce que je voudrais être, c'est ce que j'aimerais que les gens pensent de moi, c'est ce que... Et d'ailleurs, dont on peut souffrir, hein, je veux dire, c'est pas mon propre, c'est pas que du négatif. Hein, mais chez Pascal, il y a un combat à mener avec ce moi, enfin, cette partie du moi à Isaac, parce que elle, ou il veut se divertir, ou alors les deux voies de l'esquive chez Pascal, c'est le divertissement ou la différence. Et par exemple, beaucoup d'addictions aujourd'hui, quel que soit l'objet et le sujet de l'addiction, c'est l'endormissement de l'inquiétude, que ce soit l'addiction pornographique ou l'addiction aux substances ou l'addiction, je ne sais pas quoi. Les gens, en fait, ils cherchent à s'échapper de cette question angoissante. Et que Pascal a eu le courage d'affronter, d'écrire, d'explorer.
Le divertissement nous permet d'échapper peut-être au vide de la vie,
Bah bien
on
sûr,
pourrait dire ça.
ça remplit et ça remplit personne. C'est du faux remplissage. Mais en fait, on n'est pas rempli. Augustin l'avait dit avant. Il y a une partie en nous qui est en attente de Dieu et qui ne sera remplie que par Dieu. Et tout ce qui le remplit à côté est une illusion, voire un mensonge, une imposture. Mais je ne dis pas que c'est facile, hein. Moi-même, je ne peux pas tenir. Alors, c'est ce que dit Pascal. Il ne dit pas que c'est pas un héros tragique qui se tient comme ça sur le sommet de la montagne tout seul et que en bas dans la vallée tout le monde rampe et se divertit. C'est qu'il décrit avec une expérience personnelle cette tension que nous vivons tous et dont nous, au moins que nous prenions conscience, que nous passions notre temps à nous échapper pour que de temps en temps nous revenions à Dieu. De toute façon, beaucoup de gens se plaignent qu'ils vont pas à l'église, machin, top 5 ou fin. Le problème, il est en amont, il est encore plus grave que ça. Je veux dire, le problème, c'est le divertissement. C'est les mauvaises réponses à une vraie question.
Et l'ennui, c'est insupportable pour l'être humain?
Ah
C'est
bah
pour ça
oui,
qu'il est dans le divertissement?
il est occasion d'angoisse. Ouais.
Pourtant, on dit souvent que l'ennui permet peut-être de cultiver aussi la
Bah, par exemple,
créativité.
bien sûr, il faut que l'enfant s'ennuie un peu pour que, au cœur de l'ennui, il invente le jeu qui va susciter et orienter sa créativité. C'est pour ça qu'il faut pas que les enfants, ils aient des agendas de ministre. Il faut qu'ils aient des moments de creux pour que, dans les moments de creux, dans le jeu, ils inventent les jeux. Bon, et que le jeu va stimuler leur fonction, leur créativité. Mais pas trop non plus. Il faut qu'il y ait des moments où, vous savez, vous-même, vous êtes maman, vous savez même qu'il y a des moments où il faut quand même que il y ait un cadre, des horaires, des machins, pour que l'enfant puisse effectivement ne pas tomber dans l'ennui angoissante. Mais il faut un minimum de vide.
Qu'est-ce que cette pensée de Pascal, justement, sur la recherche effrénée de divertissement, la nécessaire intériorité nous dit de sa vision du bonheur?
Et ça, je ne sais pas exactement, je ne peux pas répondre à sa place. Je ne sais pas si c'était un joyeux luron ou pas, j'en sais rien, il faut demander.
Non, mais disons que pour lui, le bonheur, qu'est-ce que ça représente,
C'est
justement?
Dieu, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse vraiment répondre à cette. Enfin, pour lui, il n'y a que Dieu qui puisse vraiment répondre à cette question. Et il était sur cette brèche, comme le sont des grands, enfin, à mon avis, d'autres saints, parce que je pense qu'il y a de la sainteté chez Pascal, qui fait que bah, il pouvait pas vivre sans. Enfin, il voyait bien que le bonheur était en Dieu et nulle part ailleurs, et que c'était des faux bonheurs. En même temps, tous sont pas pécamineux, je veux dire.
Mais quand il parle d'intériorité, ça ne veut pas dire forcément isolement? Parce
Ah non, non,
on
non,
parlait
non,
du
non.
lien avec le
Non, parce que
confinement.
vous pouvez. Enfin, je sais que quand je viens en voiture ici à Marseille, sur la route, j'écoute la radio ou pas, mais je me laisse aller à mes interrogations. Et ça, c'est un bon. Et il y a beaucoup de gens en voiture. Quand on se croise dans un embouteillage, il y a des gens qui sont bien dans la voiture et qui prennent le temps de
C'est
se
ça
laisser aller.
l'intériorité?
C'est ça le chemin qui mène à l'intériorité. C'est pas l'intériorité, c'est le chemin qui mène. Est-ce que vous n'avez pas, vous, dans une vie de famille, envie de temps en temps qu'on vous laisse tranquille et qu'en même temps vous regrettez, tiens, je vais prendre l'après-midi, puis en fait, comment je vais la combler, non? Là, vous me regardez avec des drôles de yeux.
Non, 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 je vous écoute. Je vous écoute.
Bah, vous dites, ah non, les enfants, allez, chez maman, chez non, belle maman, papa, il a une réunion, et moi, je suis toute seule à la maison. Ah, et qu'est-ce que je vais faire, le repassage, le machin, le truc, le bidule. Non, non, il faut que je prenne du temps pour moi. Mais c'est pas si facile. Moi, je pense qu'il y a une résistance, parce qu'on a peur d'aller à l'intérieur de soi.
Concrètement, c'est quoi justement l'intériorité? C'est rentrer en soi, se poser des questions un peu existentielles. C'est prier aussi.
Prier, se laisser aller aux à ses pensées, écouter ses émotions, les confesser sur un cahier. Moi, c'est ce que j'invite mes patients qui, quand ils sont passés par une épreuve, n'ont plus accès à eux-mêmes. Y a la lecture, la radio. Enfin, la radio, c'est très bien. Enfin, il faut que l'émission soit...
C'est pas forcément du silence, l'intériorité.
Pas forcément. Bien pour qui la musique va être... Il y a des gens qui disent que Bach les a sauvés parce que ça leur a permis de se visiter. D'autres, ça va être le silence des chartreux. Ils se sautent dans l'infini. D'autres, ça va être une balade en montagne ou avec un paysage, etc. Il faut qu'on... C'est ce qu'un psychanalyste appelait les signifiants. Il faut à quel endroit vous trouvez un minimum de rencontre avec vous-même. Moi, je sais c'est où, puisque c'est l'océan.
C'est un endroit parce où qu'il y a vous appréciez votre vague. Propre compagnie.
Oui, je pense plus tellement à moi que je suis présent. Par exemple, moi, je sais que c'est le... Enfin, j'ai une maison dans les Landes, une petite maison dans les Landes, très modeste, mais donc j'ai vécu toute mon enfance sur la plage, enfin, au bord de l'océan et dans les pins, enfin, ce qu'il en reste maintenant. Et en fait, j'y vais, là, je vais y aller en juillet. Et c'est un lieu de...
Ressourcement.
Oui, voilà, l'odeur, le sable sous les pieds, le mouvement des vagues, tous les gens qui connaissent les Landes. Et ça ne marche pas en Méditerranée, par exemple, ça, j'ai jamais réussi. Après, c'est lié à son enfance. Ça peut être aussi des lectures qu'à un moment, je lis et puis ça m'éveille des pensées. J'ai lu Pascal là, dans le train en venant la semaine dernière de Paris, parce que... Il y a un Américain qui m'a dit à la fin « Ah, vous lisez beaucoup, hein ?» Mais en fait, je ne lisais pas tant que ça, parce que c'était trois Américains. Et en plus, j'essayais de comprendre ce qu'ils disent, mais je leur ai demandé quel accent, de quel pays ils étaient, et c'était texan. Alors, c'est l'accent texan, c'est le pire. Je ne comprenais rien. Et la fille qui avait l'air de griffonner dans son carnet, d'ailleurs, parce que ça, dans le train, c'est intéressant, les gens, ils sont un peu dans l'intériorité, quand ils ne sont pas dans les séries sur leur écran. Hein. Ils somnolent un peu, ils réfléchissent, ils feuillettent des catalogues sans les regarder vraiment. Et elle, à la fin, m'a dit « Vous lisez beaucoup hein. ?» En fait, je ne lisais pas tant que ça, parce que le bouquin que je prenais sur Pascal me faisait penser à moi, à ma vocation, à la mission. Puis je revenais, je m'endormais un peu. Et ben c'est ça, l'intériorité. Je ne me suis pas ennuyé pendant le temps. Alors, c'est un cadre. Hein. Je sais que c'est 3 heures, que je ne peux pas m'échapper. Je n'ai pas le droit de quitter le train pendant 3 heures.
Donc, l'intériorité, ce n'est pas pareil que l'ennui. Hein. Vous nous confirmez bien.
Non, mais c'est en bordure.
Merci beaucoup, Père Jean-François Noël, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Aix et Arles et également psychanalyste. Et vous pouvez retrouver cette émission sur rcf.fr ainsi que les deux premières émissions sur toutes les plateformes de podcast. Et la semaine prochaine, ce sera notre dernière émission consacrée à Blaise Pascal. Et nous reviendrons sur la lettre apostolique du pape François consacrée au célèbre philosophe. Et nous verrons que le pape éminent jésuite n'est pas du tout rancunier. Rendez-vous mercredi prochain.
Espie, Sophie Lecomte, avec le Père Jean-François Noël.